Si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à la raison, oui, si tu appelles l'intelligence et si tu invoques la raison, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la déterres comme un trésor, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ces quelques versets du livre des Proverbes sont une bonne nouvelle pour nous ce matin. Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Si nous sommes attentifs à sa voix, si nous faisons appel à l'intelligence, si nous le recherchons comme un trésor. Souvenez-vous du jour où vous avez perdu un billet de 200 euros. Souvenez-vous de votre ardeur à le retrouver. Si vous cherchez Dieu avec la même ardeur, vous comprendrez et vous trouverez. Je vous invite à vous lever. Ce matin, nous sommes venus pour te chercher, mais aussi pour te prier et te louer. Rends-nous attentifs à ta sagesse. Incline notre cœur vers l'Évangile. Éveille notre intelligence à ta parole. Amen. Laisse-nous, Seigneur, vous le trouverez sur le petit livret qui est dans votre... Le psaume du jour se portait mieux comme une confession du péché, donc j'ai pris une louange et j'ai choisi une louange de la tradition juive suite aux événements qui sont passés il y a quelques jours, quelques semaines. Voilà. Nous te rendons hommage car tu es à jamais, Seigneur notre Dieu et Dieu des Pères, le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut. C'est de toi que de génération en génération nous remercions et nous racontons ta louange. Pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour les miracles de tous les jours envers nous et pour tes prodiges et tes bienfaits à toute heure, le soir, le matin et à midi, Dieu de bonté. Ta miséricorde ne s'achève pas, Dieu miséricordieux, tes grâces ne tarissent pas. Depuis toujours, nous espérons en toi. Et nous chantons le psaume 92, les strophes 1, 2 et 4. 92, strophes 1, 2 et 4, je n'ai pas noté la page, si quelqu'un l'a, allez tout de suite.
De te louer, Seigneur, de chanter ton nom.
Prenez place. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous venons à toi qui es la source de l'amour, car nous ne savons pas aimer comme tu aimes. Par nos jugements, notre égoïsme, notre orgueil, notre indifférence, nous faisons souffrir nos frères et nos sœurs. Ainsi, nous leur voilons ton vrai visage, puisque nous nous prétendons tes fils et tes filles. Demeurons-nous, Seigneur, pour que nous demeurions en toi et dans l'amour. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Nous restons assis pour chanter « De tous mes maux, il me guérit ». Dans le livre du prophète Osée, le prophète annonce que le Seigneur relève ceux qui sont brisés. Venez, retournons vers le Seigneur, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans nos deux jours. Le troisième, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée du printemps qui arrose la terre. Au-delà de nos déchirures et de nos blessures, le Seigneur est celui qui guérit et reconstruit. Il nous relève et nous appelle à la vie. Son pardon est une pluie qui recouvre nos manquements. Sa bénédiction est comme l'ondée du printemps. Nous levons pour chanter « Ô ma joie et mon espérance ». Libérés et pardonnés, nous pouvons orienter nos vies vers le Seigneur et c'est le psaume du jour, le psaume 14, qui va nous éclairer. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et qui dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère, il n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les élus, les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inaltérable. De ton esprit emplit nos êtres. Deux lectures pour ce jour que j'ai choisi. La première en livre du prophète Amos au chapitre 6 et la seconde dans l'évangile de Luc chapitre 16. Mais avant d'écouter la lecture des textes de la Bible, je vous propose un petit temps. C'est l'histoire, c'est un père de l'Église qui a dit un jour dans les paroles de l'Écriture, se trouve caché le royaume de Dieu. Il se découvre à ceux qui persévèrent dans la prière, la paix du cœur, les psaumes et les lectures. Tout ce pour quoi l'Esprit reçoit d'ordinaire l'illumination. Je vous invite à la prière. Seigneur, éclaire-nous. Si ton royaume est caché dans l'Écriture, accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, d'étudier ta parole, de creuser la parole, de mâcher la parole, de respirer la parole. Que maintenant ton esprit éclaire notre esprit. Amen.
Donc, Amos, chapitre 6, versets 1 à 7. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez, allez de là jusqu'à Hamath la Grande et descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes ? Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre ? Vous croyez éloigner le jour du malheur, et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, ils extravaguent au son du luth. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile. Et ne s'attriste pas sur la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils seront emmenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cesseront.
Alors, deuxième lecture dans Luc 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et, tandis qu'il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. »
Nous chantons Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur.
Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur. Souffle du Dieu vivant, Esprit créateur.
Je vous en prie. Alors, le texte de l'Évangile, même s'il fait probablement partie du top 10 des textes les plus connus de la Bible, il est quand même bien célèbre, relativement célèbre. Il faut dire qu'il a tout pour marquer les esprits. Un récit bien structuré, des personnages bien typologisés, à la limite de la caricature, la description d'un enfer, d'un paradis, le jugement des privilégiés, la récompense des démunis, la critique d'une société égoïste. Il faut néanmoins, avant tout, se rappeler que c'est d'abord et essentiellement une parabole. Il est vain de chercher dans cette histoire la preuve, ou pire, la description de l'au-delà. Jésus vient ici encore, insiste sur l'un de ses thèmes privilégiés, la nécessité et l'urgence de la conversion. Bien évidemment, Jésus ne se contente pas de répéter platement « il est urgent de se convertir ». En bon pédagogue, il présente sa thèse, son message, sous différents aspects, et surtout en profite pour mettre en évidence nos propres dysfonctionnements, comme ceux de notre monde. Il y a tout dans ce texte pour séduire le prédicateur. Ou plus exactement, il y a de quoi, dans ce texte, séduire toutes sortes de prédicateurs. Que sa foi l'oriente davantage sur la justice sociale, sur le respect des normes religieuses, sur les injustices économiques, sur la charité, sur la morale, sur le rapport entre les classes aisées et nécessiteuses, sur les responsabilités des nantis ou le droit des démunis, sur la promesse d'une récompense ou la peur d'un enfer, le prédicateur aura de quoi nourrir ses obsessions. En fait, cette parabole parle de tout ça. Il est normal de s'indigner du comportement du riche, tout aussi normal de compatir à la situation de Lazare. On peut se réjouir du jugement final. On peut trouver regrettable que le riche, malgré sa punition, n'ait toujours rien compris puisqu'il continue de considérer Lazare comme un serviteur, un inférieur, qui doit servir de messager entre lui et ses frères. Il est en revanche désolant que cette parabole ait servi à construire l'imaginaire du paradis et de l'enfer. Certains pères de l'Église allant jusqu'à affirmer que le spectacle des condamnés tourmentés faisait partie de la récompense des justes. Les pères de l'Église n'ont pas dit que des choses fabuleuses. C'est toujours le risque lorsqu'on oublie que les paraboles ne décrivent pas une réalité, mais qu'elles essayent de nous faire comprendre une vérité spirituelle compliquée à travers des images simple. C'est cette même incompréhension qui peut faire voir dans cette parabole l'idée qu'on retrouve une récompense pour ses souffrances dans le monde à venir et que les méchants seront punis à la fin. C'est là une lecture au premier degré, ce qu'une parabole n'est jamais. La fin d'une parabole n'est jamais une morale, mais toujours une invitation à repenser notre vision du monde et à reconsidérer nos choix de vie. Bref, vous ne serez pas étonné, puisque je vous ai dit que cette parabole avait de quoi saisir toutes les obsessions. Vous ne serez donc pas étonné que ce qui m'a sauté au visage lorsque j'ai relu ce texte, c'est la pointe d'ironie qui conclut ce passage. Je vous redonne la phrase en question. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Il y a, vous l'avez compris, plusieurs manières d'interpréter cette phrase. Qui peut bien être celui qui ressuscite des morts? Dans notre récit, il s'agirait évidemment du personnage imaginaire de Lazare. Mais d'un autre côté, il est difficile de ne pas penser à un autre Lazare, celui que Jésus justement ressuscite dans l'évangile de Jean. Il est encore plus difficile de ne pas faire le lien entre quelqu'un qui reviendrait d'entre les morts et Jésus lui-même. Est-ce l'ironie de Jésus ou celle de Luc? Il est difficile de répondre à cette question parce que cela soulève d'autres questions. Lazare signifie « Dieu a aidé »,« Dieu a secouru ». Il y a dans la Bible deux personnages qui portent ce nom, celui de la parabole que nous venons d'entendre et celui de l'évangile de Jean. Il est quand même hautement improbable, mais possible, mais improbable, que ce soit un hasard total, qu'ils soient tous les deux liés à une histoire de résurrection. Mais la question est, si Luc connaissait l'histoire de la résurrection de Lazare, pourquoi ne l'a-t-il pas racontée? Et s'il ne connaissait pas cette histoire, pourquoi son pauvre s'appelle-t-il Lazare alors que le riche n'a pas de nom? Je ne suis pas sûr qu'il existe de réponse pleinement satisfaisante à cette question. Mais il existe une question plus essentielle qui concerne elle aussi des noms. Il y a Abraham, il y a Moïse, et enfin, de façon collective, il y a les prophètes. Pourquoi cela? Pourquoi Jésus, dans sa parabole, ne fait-il pas simplement allusion aux Écritures, mais qu'il les a détaillées en Moïse et prophète? Et pourquoi est-ce Abraham qui est choisi comme interlocuteur? Moïse représente bien évidemment toutes les lois, toutes les prescriptions, toutes les règles qui régissent la vie d'un homme pieux, ou d'une femme, bien sûr. Les prophètes sont ceux qui dénoncent, ceux qui négligent ces lois, ou qui les détournent de leur sens spirituel pour en faire des lois d'oppression et des oreillers de paresse. Ceux qui font passer la lettre de la loi avant l'esprit de la justice. Amos, que nous venons d'entendre, est le plus virulent et le plus symptomatique d'entre eux. Bref, Moïse et les prophètes représentent les commandements de Dieu dans leur responsabilité envers Dieu et envers les proches, le prochain. Ne pas tenir compte de Moïse, c'est mener une vie désordonnée, autocentrée. Négliger les prophètes, c'est oublier le souffle, c'est se contenter du rituel vidé de son sens. Et Abraham. Abraham représente l'origine, celui qui a reçu la promesse, celui dont on peut se réclamer être héritier. Le riche qui se tourne vers Abraham et lui dit « Je suis ton descendant, j'ai droit à ta promesse. » Cet homme-là, Abraham l'appelle « mon enfant ». Il lui reconnaît donc son titre de descendant, mais il lui dénie tout droit à l'héritage. Le riche, je continue de l'appeler ainsi puisqu'il n'a pas d'autre nom, a cru que son héritage, tant matériel que spirituel, le sauverait, ce en quoi il s'est lourdement trompé. Il est illusoire de croire que le salut viendra parce que l'on est juif, chrétien, même protestant. Le salut surgit si l'on écoute Moïse et les prophètes. Je répète volontiers, ce n'est pas une idée de moi, que la mort et la résurrection de Jésus sont la clé de compréhension des évangiles. On ne peut comprendre leur message que si l'on se place du point de vue de la croix et du tombeau vide. Cette parabole que l'on retrouve que chez Luc est-elle en train de relativiser la résurrection, de remettre l'accent sur l'obéissance aux prescriptions légales, de nier l'importance de la grâce? Certes non. Que signifie alors cette opposition entre la résurrection d'une part et Moïse et les prophètes de l'autre? La résurrection est quelque chose d'exceptionnel. Elle est l'irruption soudaine de la puissance de Dieu dans nos vies. Moïse et les prophètes sont au contraire notre quotidien, notre pratique jour après jour. L'extraordinaire vient couronner notre ordinaire, l'éclairer, le valider, lui donner un sens. Il n'est pas comme les carnavals d'autrefois, qui étaient une forme de soupape de sécurité d'une société oppressante, qui était la possibilité de donner libre cours aux instincts réprimés tout le reste du temps, un moyen de supporter la médiocrité du reste de votre temps. Moïse et les prophètes ne sont pas des lois qui vous oppriment et vous frustrent, mais celles qui vous permettent de bâtir votre vie. On peut invoquer ici la parabole des maisons, bâties l'une sur le sable et l'autre sur le roc. Alors à qui s'adresse cette parabole de Jésus? Contre laquelle de nos tentations nous prévient-elle? À première vue, elle vise ceux qui ont du bien et qui négligent leurs contemporains moins bien lotis, ou ceux qui fondent leur confiance dans les certitudes illusoires d'appartenance. Mais à ce moment, dès l'Évangile, Jésus semble s'adresser d'abord aux pharisiens, à ceux à qui il reproche de donner trop d'importance à la lettre de Moïse et d'oublier les interpellations des prophètes. On pourrait aussi s'imaginer qu'il critique les perpétuels révoltés, qui s'imaginent que la justice de leur cause les place au-dessus des règles communes. Il faut tenir Moïse sans jamais négliger les prophètes. Il faut écouter les prophètes sans négliger Moïse. Ce n'est pas cette obéissance qui nous sauve, mais écouter Moïse et les prophètes nous rend capables d'accueillir la grâce que nous révèle la résurrection. Si l'extraordinaire peut se reposer sur l'ordinaire, si l'extraordinaire ne peut se reposer sur l'ordinaire, il reste simplement un miracle, quelque chose qui étonne, qui frappe de stupeur, mais qui est incapable de provoquer un changement de comportement, une conversion. Notre vie quotidienne de foi, qui parfois peut nous sembler un peu aride, est le temps nécessaire dont nous avons besoin pour accueillir le déferlement de la grâce, qui sans cela nous laisserait simplement sceptiques. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, il ne serait pas convaincu. Amen. Mon sauveur, je voudrais être, cantique 4605, page 718. 4605, page 718.
Fleur de...
Nous restons debout pour la confession de la foi. Nous prendrons la numéro 2 parmi celles qui se situent tout à la fin de votre recueil de cantiques, celle qui commence « Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu ». Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme, et pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les humains sont liés en Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre espérance commune. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Prenez place. Souvenez-vous de la parole du Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le temps du don, le moment de l'offrande. Dieu très bon, tout vient de toi, et nous pouvons te donner que ce qui t'a déjà t'appartient. Accepte-nous donc, nous tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et avec amour, pour ton service. Amen. Quelques annonces. Donc c'est un peu la fin des vacances scolaires, les choses reprennent demain. Alors, pour cette rentrée, on a décidé avec le conseil presbytéral d'afficher en A3, les activités des deux mois à venir. C'est-à-dire, là, j'ai mis que septembre, mais octobre deviendra dans la semaine. normalement, on a mis tout ce dont on avait connaissance, mais n'hésitez pas, ce n'est pas un texte sacré, vous pouvez corriger, ajouter, noter que c'est supprimé pour que les gens puissent le savoir. Donc vous la trouverez, elle est, quand vous entrez dans le temple, elle est à bâbord ou à tribord quand vous sortez. Ah ben j'ai passé une semaine sur un bateau. Non, à gauche en entrant, à droite en sortant.
Bonjour à chacun, merci de votre présence. N'hésitez pas à m'aider si j'oublie des choses, hein, parce que je n'étais pas prévu que je sois là ce matin. Donc, cette semaine, nous nous retrouvons mardi pour la chorale à 19h15 et mercredi, nous prions à 18h. Voilà. Sinon, j'ai oublié les merci. Merci aux conseillers d'accueil. Donc, il devait y avoir Caroline, Nicolas, Florence, et puis merci également à Andrea qui est là-haut à l'orgue. Sinon, dimanche prochain, c'est le culte de rentrée. Donc, c'est la reprise du jardin biblique, de l'école biblique, du catéchisme. Venez nombreux. Et il y a aussi l'annonce le mercredi 18. D'un film, c'est le groupe œcuménique d'Annecy qui vous invite à la projection du film choisi par le jury œcuménique de Cannes, Les graines du figuier sauvage. Voilà. Donc ce film, c'est donc mercredi 18 à 19h et c'est à quel endroit ? Au Nemours, merci. Et il y a le père Michel Tournade et Vanessa Sanzon de RCF qui présenteront le film et animeront le débat. Voilà. Et puis, on a parlé du 18, donc le week-end du 14-15, et le conseil presbytéral sera absent. Il sera aux confins pour le week-end de rentrée. Ce week-end-là, par contre, il y aura un concert,
une chorale
qui sera présente au culte, donc venez nombreux également. Et puis, qu'est-ce qu'on peut...
Tu veux ajouter quelque chose?
Alors, et puis la brocante, bien entendu.
Je vais ajouter quelque chose à propos du concert.
Oui.
Bon, vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui, je compte sur le bouche à oreille la semaine prochaine.
Non, il ne faut pas dans le micro, sinon ça sert à rien.
Oui. Je compte sur vous la semaine prochaine pour faire fonctionner le bouche à oreille. Donc, le dimanche 15 septembre, effectivement, nous recevons la chorale de Colombier, qui animera le Colombier près de Neuchâtel, qui animera le culte. Donc, il faudrait qu'on soit un peu nombreux pour les accueillir. Venez nombreux et on fera un café, un petit accueil chaleureux, etc. Et je reviens sur le samedi 21 septembre pour la chorale, pour la brocante. Donc, nous installerons toutes choses à partir de 8h du matin. Les personnes désirant aider à cette installation et vendre avec nous toute la journée sont les bienvenues dès 8h. Les objets qui doivent être apportés seront également apportés à partir de 8h. Si vraiment nécessaire, je viendrai vendredi soir pour mettre les choses peut-être dans la salle de la petite salle comment ça s'appelle, la garderie. Voilà, merci. Donc les objets sont donnés de façon anonyme, seront mis en vente au prix que les gens voudront bien mettre. On n'impose pas de prix. Non, on n'impose pas de prix parce qu'autrement c'est trop compliqué.
Vous pouvez partir des centimes. Hein.
Non, ben non. Il n'y a rien en dessous d'un euro, on va dire, ou de 5. On verra sur le moment. Et les objets qui auraient été apportés ne seront pas rendus à moins que les gens viennent les chercher et seront donnés ensuite au Secours Populaire, je pense, qui en ont bien besoin aussi. Donc je pense qu'on peut les aider de cette façon-là. Et on ne va pas commencer à rendre à qui, à droite, à gauche. Hein.
C'est ou à donc, conserver par les
ou à conserver. Non, sûrement pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et je compte donc sur le bouche à oreille pour tout ça. Je ne suis pas là dimanche prochain, mais Pierre peut-être pourra relayer et vous pour le au culte de famille. D'accord ? Merci beaucoup.
Marie-Bonne, vas-y.
Alors, j'ai une annonce, bonjour, une annonce à vous faire un peu hors paroisse, mais simplement pour vous annoncer qu'entre le vendredi 6 septembre, samedi 7 septembre et dimanche 8 septembre, à Montmain, Talloire et à la petite église Saint-Germain de Talloire, il y a un festival qui s'appelle les Bestivités et notre fils Clémentin est partie prenante là-dedans. Et notamment le samedi soir, au prieuré de Talloire, qui est une salle magnifique, si vous ne connaissez pas, mais c'est vraiment très chouette, donc l'entrée est libre. Et samedi soir, il y a un cinéma-concert où notre fils va diriger et sa musique va être jouée avec derrière des courts-métrages de diffusés. Donc n'hésitez pas à vous déplacer.
T'as une affiche, t'as un flyer ?
Il y a des affiches, une affiche dans le... Et t'as mis des flyers qui s'offrent, voilà. Donc c'est entrée libre. Ce sont que des musiciens des conservatoires de Paris, Londres, allemands, des jeunes musiciens début de carrière. Donc certains seront certainement des têtes d'affiche dans 5, 6, 7, 8 ans. Et c'est vraiment... vraiment magnifique, donc n'hésitez pas à venir. Donc entrée libre, sortie évidemment payante, mais voilà. Mais en tout cas, voilà.
Frais, oui.
Merci.
Vas-y. Juste à signaler encore une chose, c'est que le groupe de jeunes, qui concerne en gros les lycéens et les étudiants, qui se réunit habituellement le samedi soir qui précède le culte famille, cette fois-ci ce sera 15 jours après parce que c'est un peu tôt dans l'agenda. Alors ne vous fiez pas à ce qui est écrit dans le journal.
Oui.
Excusez-moi de prendre la parole pour vous dire quelque chose d'un peu personnel. Ma maman soutenait la fondation John Bost, donc il y a déjà 80, 90 ans, peut-être même 100 ans. Et donc... J'ai continué cette tradition et il se trouve que ce matin, l'émission Solae sur France Culture, on parlait justement de cette fondation qui est vraiment magnifique, splendide, inouïe, et qui a une section de, non pas de handicapés justement, mais de sport adapté. Ils ne cherchent pas l'exception d'un jeu olympique, d'une médaille aux Olympiques, mais simplement le mieux vivre de ces gens-là. Et j'ai trouvé ça formidable. Encore une fois, je reçois trimestriellement leur bulletin. J'avais jamais fait attention qu'on parlait de cette section-là, que je trouve magnifique.
Merci. Donc, regardez en podcast l'émission sur la John Post. Nous allons maintenant partager le pain et le vin, enfin, la chose que j'appellerais vin, mais qui est du jus de raisin. Chacune est la bienvenue pour ce temps. S'il reconnaît Jésus comme sauveur, quel que soit son... quel que soit son engagement, quel que soit son état d'esprit, quel que soit son sentiment de culpabilité, quel que soit son appartenance ecclésiale, c'est Jésus qui invite chacun, chacune est la bienvenue. Nous formerons un cercle, les conseillers vous passeront le pain, c'est le conseiller, je rappelle, qui donne le pain, on ne se sert pas, pour différentes raisons, et ensuite on passe avec les petits gobelets, on les prend et on les repose immédiatement, après de l'avoir bu bien sûr, dans leur emplacement. Je vous invite à prendre avec vous le moment venu, votre livret, parce que nous terminerons en cercle. Seigneur Jésus, par le pain que tu nous donnes, c'est toi qui viens vivre en nous. Merci Seigneur, avec toi nous voulons avancer sur la route, te connaître mieux, apprendre à te prier. Seigneur Jésus, par le pain que tu nous donnes, c'est toi qui viens vivre en nous. Merci Seigneur, avec toi nous trouvons la force de partager l'amitié et la nourriture avec ceux qui manquent de pain et d'amour. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon sang. Il leur donna à manger et leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, après le souper, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples et leur dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Faites ceci en mémoire de moi. » Voici le pain et le vin pour le repas. Voici le pain et le vin, cadeau de la terre et fruit du travail des humains. Ce pain et ce vin, nous sommes heureux de le partager à chaque repas. Ils sont les signes que Jésus a choisis pour se donner en nourriture. Apprends-nous, Jésus, notre Seigneur, à tout faire pour que les vivants de la terre aient du pain pour vivre. Apprends-nous, Jésus, notre Sauveur, à tout faire pour que tous les humains de la terre puissent goûter la joie de te connaître. Seigneur, renouvelle en nous aussi ton Saint-Esprit pour que notre partage soit nourri de ta présence et que nous puissions percevoir les prémices de ton royaume. Les percevoir dans cette communion fraternelle où le pain et le vin deviennent signes de ton corps et de ton sang versé pour nous. Amen. Seigneur Jésus, par ton Esprit. Celles et ceux qui reconnaissent et confessent Jésus-Christ comme Seigneur fassent un cercle autour de cette table pour partager son repas. Le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ.
Nous te rendons grâce pour ce repas où tu as été pain pour notre vie. Nous te louons pour cette communion où tu as parlé et autour de laquelle tu nous aides à construire la communauté, une communauté de vie, de partage. Toi qui as dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Accorde-nous maintenant d'enraciner notre Église dans ta parole et de laisser l'Évangile féconder notre vie. Amen. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Jésus Sauveur, tu guéris ceux qui sont meurtris, brisés, marginalisés. Entends nos voix quand nous prions pour que notre société guérisse de sa violence. Accepte notre prière pour ceux qui sont meurtris, enfants, femmes, hommes victimes de la violence. Donne-leur de recouvrer la plénitude de l'être, car ils sont tes enfants. Entends-nous aussi quand nous te prions pour les agresseurs. Il n'est plus besoin d'infliger la souffrance. Enseigne-leur des manières de vivre où il n'y ait pas de place pour la violence. Accorde-leur la guérison et l'intégrité de leur être, car eux aussi sont tes enfants. La violence ne t'est pas étrangère, Seigneur. Il y avait des gens qui étaient contre toi et ils ont réclamé ta mort. Pilate t'a livré, on t'a injurié, battu, abandonné. La vérité a été subordonnée à l'opportunisme, aux peurs et aux préjugés des puissants. Sauveur ressuscité, aide-nous à changer les choses. Remplis-nous de ton esprit de vie et de vérité, afin que nous ne laissions plus les innocents vivre leur Gethsémané. Pardonne-nous quand nous laissons l'intolérance ou l'apathie dominer sur notre volonté de protéger les victimes d'une injuste violence. Que tous les membres de ton peuple puissent vivre sans souffrance, dans la paix. C'est dans cette espérance et cette confiance que nous osons te dire avec audace, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous chanterons « Tu nous appelles à t'aimer » juste après la bénédiction. Heureux, heureux celui qui est assez humble pour accepter qu'on le juge. Heureux celui qui est lent à juger et prompt à pardonner. Heureux celui qui sait porter la souffrance du frère ou de la sœur comme si elle était sienne. Heureux celui qui sait que la paix, la justice, la vérité lui ont été confiées. Heureux celui qui est prêt à affronter la persécution pour l'amour de ses frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur vous son regard et vous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Amen. Amen.